Épître aux Romains, chapitre 3.
Lecture de la parole. Quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère? Je parle selon l'homme, qu'ainsi n'advienne. Puisqu'alors, comment Dieu jugera-t-il le monde? Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur, et non comme nous sommes calomnieusement accusés, et que quelques-uns prétendent que nous disons « faisons du mal », afin qu'arrive le bien, desquels le jugement est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs, d'être tous sous le péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi.
Lecture de l'étude. Si donc Dieu exige si sérieusement la sincérité et rejette toute forme extérieure, ne vaut-il pas mieux alors être un païen incirconcis, avec une responsabilité moindre que celle d'un juif? Tout naturellement se pose la question, quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision? L'apôtre répond, grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, verset 2. Dans un autre passage, chapitre 9, versets 4 et 5, il énumère encore une série d'autres privilèges du juif, mais ici il n'en nomme qu'un, le plus élevé il est vrai, à savoir le fait qu'il possède la parole écrite de Dieu.
mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses, auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen.
Dieu ne s'était pas révélé à un autre peuple de la terre aussi directement qu'à son peuple d'Israël. Il leur avait donné sa bonne parole comme descendant d'Abraham, qu'il avait mis à part des autres hommes, autrefois, par la circoncision. Comment avait-il profité de ce privilège? Israël avait foulé aux pieds la bonté de Dieu. Ici, nous ne nous occupons pas du nombre plus ou moins grand de ceux qui, parmi le peuple, avaient possédé la vie divine, mais bien des privilèges d'Israël comme peuple de Dieu et de l'emploi qu'il avait fait de ces privilèges. Or, Israël, nous le savons bien, avait été infidèle. Est-ce que son infidélité annulerait la fidélité de Dieu et les promesses divines? Qu'ainsi n'advienne, réplique l'apôtre. Mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Dieu s'en tient d'une manière invariable à sa parole. Il accomplira ses promesses malgré toute l'infidélité d'Israël. L'apôtre ne poursuit pas ce sujet ici, mais il le reprendra en détail au chapitre 11. De la même manière que Dieu tient ses promesses, il maintient aussi son jugement sur le péché. David, après la faute si grave qu'il avait commise, avait trouvé son unique ressource dans la confession franche de son péché et en justifiant Dieu sans s'occuper de ce que cela lui coûterait. Il dit « J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. » Verset 4, psaume 51, verset 4. Comment pourrait-on jamais trouver en faute les paroles de Dieu ou son jugement? Finalement, toutes choses tourneront à sa gloire et à la honte de l'homme. C'est Dieu qui, sous tous les rapports, sera le vainqueur. Mais le mot « mais » que l'esprit de l'homme élève toujours en face des déclarations de Dieu, nous le trouvons souvent dans notre épître. Mais si l'infidélité de l'homme fait briller avec d'autant plus d'éclat la fidélité immuable de Dieu, si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous? Est-ce que Dieu n'est pas injuste en exerçant le jugement sur ceux qui, par leur conduite, font briller sa fidélité avec tant d'éclat? L'apôtre dit « Je parle selon l'homme », c'est-à-dire comme les hommes parlent et jugent, sans réflexion, dans leur ignorance, et il répond « Qu'ainsi n'advienne ». Car si cette objection était juste, Dieu ne pourrait juger personne, pas même les païens, verset 6. Abraham avait déjà déclaré que Dieu était le juste juge de toute la terre. Genèse 18, verset 25.
Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste?
Et les Juifs reconnaissaient que les iniquités des païens méritaient le jugement. N'est-ce donc pas insensé de déduire de ce que l'infidélité de l'homme a fait briller avec éclat la fidélité de Dieu, que le péché et la culpabilité de l'homme en sont diminués, et que Dieu ne peut pas exercer le jugement comme juge de toute la terre? Ce serait en d'autres mots dire que Dieu ne doit pas punir le pécheur, mais au contraire le récompenser, parce que son mensonge a mis en évidence la vérité de Dieu. Non, Dieu demeure toujours fidèle, immuable. Il ne peut se renier lui-même, de Timothée 2, verset 13. Ses promesses, comme ses menaces de jugement, s'accompliront inévitablement. En dépit de toutes les objections de l'homme, les Juifs, comme les païens, seront soumises au jugement du Dieu saint. Finalement, l'apôtre pose encore une fois la question. Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur? Il s'en rapporte pour la réponse aux auditeurs ou lecteurs. Une conscience sincère ne sera pas embarrassée à ce sujet. Est-ce que les conséquences d'une faute fussent elles-mêmes favorables au point de vue humain, pourrait délivrer un délinquant de sa faute et de la punition qu'il mérite. ou transformerait-elle cette faute même en une bonne action? Cette pensée absurde rappelle alors à l'apôtre le faux principe qui était attribué aux croyants par leurs adversaires, prétendant qu'ils disaient « faisons du mal afin qu'arrive le bien », verset 8. Indigné au-dedans de lui d'une telle accusation, qui dévoilait après tout le propre état d'âme de celui qui l'a formulée, il ajoute « desquels le jugement est juste ». Un tel accusateur prononçait son propre jugement. Aussi longtemps qu'une conscience n'a pas été convaincue de péché, elle attaquera et outragera la grâce, mais dès que cette conviction a lieu, elle la saisit et la salue avec reconnaissance. Au verset 9, l'apôtre reprend le cours de sa pensée et demande, en rapport avec le verset 1, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents ?» Et il répond « Nullement ». Car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché. Ces deux classes étaient sans contredit convaincues de péché. Les juifs étaient tout disposés à accepter ce jugement au sujet des païens, mais ils auraient bien aimé s'y soustraire eux-mêmes. C'est pourquoi Paul cite une série de passages de leurs propres écritures qui exposent d'une manière frappante que, non seulement ils étaient eux-mêmes pécheurs, mais qu'ils avaient péché bien davantage que les païens. Cet exposé est accablant. Précisément, les oracles de Dieu, qui avaient été confiés aux Juifs et dont ils aimaient à se vanter, dévoilaient en un tableau effrayant leur état moral. La description des péchés et infamies des païens dans le premier chapitre est saisissante, mais ils étaient commis par des païens qui vivaient sans Dieu, dans l'obscurité de leur cœur. Ici, par contre, il s'agit de Juifs qui possédaient de grands et nombreux privilèges. Il n'y avait pas de juste parmi eux, pas un seul qui eût recherché Dieu. Tous s'étaient détournés et s'étaient rendus inutiles. Il n'y en avait aucun qui exerçât la bonté, pas même un seul. Ils avaient employé tous leurs membres comme instruments d'iniquité. Tout en eux était corrompu, souillé par le péché et la violence. Leur gosier, leur langue, leurs lèvres, leurs bouches, leurs pieds, leurs voix. Il n'y avait point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Les témoignages de cette terrible corruption sont tirés des psaumes et des prophètes. Que pouvaient répondre les Juifs à cela? Rien. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. La culpabilité des Juifs, plus grande que celle des païens, était donc démontré d'une manière irréfutable. Et maintenant, voici la conclusion accablante, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Toute bouche, celle du juif aussi bien que celle du païen, sont fermées. Le monde entier, juifs et païens, irrémédiablement coupables devant Dieu. C'est un verdict auquel on ne s'attend certainement pas. L'humanité entière coupable devant Dieu, tous, religieux ou impies, bons ou mauvais, muets devant le tribunal du Dieu saint. Quelle humiliation pour l'orgueil de l'homme vaniteux! C'est en vain qu'il s'élève de toute sa force contre cette déclaration. Tel est le monde aux yeux de Dieu. L'apôtre termine par ces mots. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. Car par la loi et la connaissance du péché, verset 20. S'il avait été possible d'obtenir par des œuvres la justice devant Dieu, le peuple d'Israël l'aurait obtenue par la loi de Sinaï. Mais c'est exactement le contraire qui est arrivé. Comme nous l'avons vu, l'état des Juifs s'était montré si mauvais qu'il était devenu proverbial parmi les autres peuples, leur culpabilité par la transgression de la loi qu'ils reconnaissaient inviolable, n'avait fait que s'accroître. Or, pouvait-il en être autrement? Non, car la loi ne convainc pas seulement l'homme de péché, mais elle fait apparaître ce dernier dans toute sa laideur. Le péché devient par le commandement excessivement pécheur. Chapitre 7, verset 13.
Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort, qu'ainsi n'advienne? Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devînt par le commandement excessivement pécheur.
La loi ne peut pas donner la sainteté ni justifier le pécheur devant Dieu. En lui faisant connaître le péché sous son vrai caractère, elle le condamne dans sa conscience. Il ne lui reste plus alors qu'à se courber et se juger lui-même. S'il néglige la grâce, il reste finalement muet devant Dieu. Avec ces deux mots « mais maintenant », l'apôtre introduit un tout nouveau sujet qui va nous occuper de choses plus agréables que la longue parenthèse du chapitre 1, verset 18, au chapitre 3, verset 20. Dans cette parenthèse, l'apôtre nous a parlé du triste état de l'homme, des terribles conséquences de sa chute, aboutissant à cette conclusion que le monde entier mérite le jugement de Dieu. Mais maintenant, il va nous parler de ce que Dieu a fait pour remédier à la corruption de l'homme et aussi de la révélation de sa justice dans l'Évangile. La loi n'avait pas pu révéler la justice, pas même une justice humaine, car la loi ne donne que la connaissance du péché. Mais dans l'Évangile de la grâce, la justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi pour la foi. L'apôtre revient ainsi au verset 17 du premier chapitre. Cette justice n'a rien à faire avec la loi qui cependant lui rend témoignage. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient. Quelle merveilleuse vérité en si peu de mots! Nous avons déjà parlé plus haut de la justice de Dieu. Elle trouve sa mesure non pas dans la responsabilité de l'homme, mais en Dieu lui-même dans sa nature. Dieu juge l'homme d'après sa responsabilité, mais il manifeste sa justice dans ses actes, et de quelque manière qu'il le fasse, c'est toujours à sa gloire. La justice de Dieu a donc été manifestée sans loi. La loi avait été donnée à l'homme en vue de ses relations avec Dieu. Elle lui ordonnait d'aimer Dieu par-dessus tout, Dieu qui restait caché. Et cette loi ne fit que montrer la culpabilité irrémédiable de l'homme. Une conscience sincère ne peut faire autrement que de reconnaître que sa propre justice, une justice légale, n'est qu'un vêtement souillé. La justice de Dieu n'a absolument rien à faire avec la loi. Comme nous l'avons vu, elle s'est manifestée en ceci, que Dieu a couronné de gloire et d'honneur Jésus à la droite de sa majesté, sur le fondement de son œuvre accomplie. La loi et les prophètes ont bien parlé de cette justice et lui ont rendu témoignage, mais ils ne pouvaient faire plus. Nous lisons en Ésaïe 46, verset 13, « J'ai fait approcher ma justice, elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas. » Et au chapitre 56 du même prophète, « Mon salut est prêt de venir, et ma justice d'être révélée. » Verset 1. Voyez aussi chapitre 51, versets 5, 6 et 8.
« Ma justice est proche, mon salut est sorti, mes bras jugeront les peuples. Les îles s'attendront à moi et auront leur attente en mon bras. Élevez vos yeux vers les cieux et regardez vers la terre, en bas, car les cieux s'évanouiront comme la fumée, et la terre vieillira comme un vêtement, et ceux qui y habitent mourront également. Mais mon salut sera à toujours et ma justice ne défaudra pas. » Car la teigne les rongera comme un vêtement, et le ver les rongera comme de la laine, mais ma justice sera à toujours, et mon salut de génération en génération.
Daniel 9, verset 24.
70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints.
Ainsi, ces anciens témoins ont annoncé la justice de Dieu comme devant être prochainement révélée, tout en déclarant que ce ne serait pas de leur vivant. Mais maintenant, elle est manifestée, et cela par la foi de Jésus-Christ, le Sauveur crucifié et glorifié. Dans la loi, il n'était pas question d'un substitut égarant pour le pécheur coupable. Elle ne pouvait annoncer celui qui viendrait que par des ombres et des types. Mais maintenant, Dieu soit béni pour ces mots, la justice de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. La grâce témoigne d'une intervention de Dieu par le moyen de son Fils bien-aimé, qu'il n'a pas épargné, pour pouvoir nous sauver. La croix de Golgotha ne nous parle pas seulement de la prérogative de Dieu d'intervenir en grâce, là où tout espoir était perdu, mais aussi de sa justice qui se manifeste dans le fait qu'il justifie maintenant celui qui est de la foi de Jésus. D'autre part, l'homme reconnaît par sa foi au témoignage de Dieu qu'il est coupable et pécheur, privé de toute propre justice, et que ce n'est que par l'œuvre expiatoire de Christ qu'il peut être au bénéfice de la justice de Dieu. Si cette justice avait quelque rapport avec l'activité de l'homme, elle serait par la loi et ne pourrait être que pour Israël. Or, comme elle est la justice de Dieu, elle s'applique à tous les hommes sans distinction. C'est la justice de Dieu envers tous. Elle est destinée à tous. Elle est là pour tous. Fondée sur l'œuvre de Christ qui est mort pour tous, elle s'applique au monde entier, à tous les hommes, juifs ou païens. Elle est accessible à tous, mais, remarquons-le bien, elle ne profite qu'à tous ceux qui croient. Ce n'est qu'en entrant en relation avec Christ par une foi personnelle qu'on a part à cette justice et qu'on jouit de ses privilèges. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Verset 23. L'homme, après la chute, fut chassé du paradis par la gloire de Dieu, et son histoire ensuite ne fut que péché et éloignement progressif de Dieu. Il négligea tout ce qui aurait pu le rapprocher de la sainte présence de Dieu et mériter d'être consumé par la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, et aucun homme n'atteint la gloire de Dieu. Toutefois, Dieu soit loué, si tous les hommes se trouvent par nature dans la même position devant Dieu, sa grâce est là aussi pour tous, sans distinction. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Verset 24. Tout est l'œuvre de Dieu, et pour cette raison c'est parfait. Tout se fonde sur la rédemption qui est dans le Christ Jésus, fondement inébranlable. Tous les croyants se trouvent sur un même terrain devant Dieu. Hier, sans distinction, ils étaient des êtres pécheurs et perdus. Aujourd'hui, sans distinction, ils sont des êtres justifiés et graciés. Comment donc la rédemption pouvait-elle être accomplie? Elle n'était possible que par un moyen qui donne une pleine satisfaction aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu. Sous l'ancienne alliance déjà, Dieu avait représenté ce moyen par un type. Une fois par an, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur se rendait dans le lieu très saint pour répandre le sang de la victime sur le propitiatoire placé sur l'arche de l'alliance, et pour faire ainsi expiation des péchés devant Dieu. Le sang se trouvait alors entre les chérubins et la loi violée, les chérubins qui veillaient en sainteté à l'accomplissement des voies de Dieu, et la loi écrite d'une manière ineffaçable par le doigt de Dieu sur les deux tables de pierre placées dans l'arche. Ainsi le sang était en quelque sorte mis à la place du péché, et le trône du jugement était transformé en propitiatoire, reposant sur un juste fondement. Seul le sang d'un sacrifice reconnu et accepté par Dieu pouvait opérer une telle chose. Aujourd'hui, le type est accompli. Dieu a présenté Jésus-Christ pour propitiatoire par la foi en son sang, verset 25. Le sang précieux du Fils de Dieu est apporté dans la présence de Dieu, et là, il est présenté dans toute sa valeur devant Dieu. Christ est à la fois le souverain sacrificateur, entré dans le sanctuaire avec son propre sang, et le propitiatoire établi par Dieu. Son sang a apporté une expiation parfaite et quiconque a recours à ce sang est justifié par la rédemption. Dieu ne se souviendra plus jamais de ses péchés, et cela afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus, versets 25 et 26. Dieu pouvait, dans les temps de l'Ancien Testament, supporter avec patience les péchés des siens, parce qu'il contemplait d'avance le sacrifice qui allait être offert à Golgotha. Il voyait le précieux sang qui purifie de tout péché, et pouvait avec patience passer par-dessus les péchés, non seulement sans porter atteinte à sa justice, mais bien plus pour la manifester. La présentation du propitiatoire qu'il voyait d'avance est préfigurée continuellement dans les sacrifices de l'Ancien Testament, justifie sa patience. En outre, Dieu montre sa justice dans le temps présent en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Il n'est plus question de patience. La dette est payée. Le sang d'expiation a coulé. La justice de Dieu n'est plus une espérance. Elle a été manifestée en Christ. Dieu peut donc montrer sa justice précisément dans le fait de justifier tout pécheur qui croit en Jésus. Il est juste en le faisant. Merveilleuse vérité. En réalité, elle est digne d'un Dieu sauveur et le glorifie, lui, ainsi que celui qui est venu pour accomplir l'œuvre du salut de Dieu. Par contre, elle ne donne aucune gloire à l'homme. C'est pourquoi l'apôtre demande au verset 27 « Où donc est la vanterie ?» Elle a été exclue. Dieu ne veut pas donner sa gloire à un autre, et encore moins à l'homme propre juste et orgueilleux. Or, comment donc toute gloire a-t-elle été enlevée à l'homme? Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Le lecteur est peut-être surpris de trouver ici le mot « loi ». Paul emploie souvent ce mot pour désigner une règle connue, un principe établi par l'expérience. Il ne pense pas du tout ici à la loi de Sinaï. Comparez par exemple chapitre 7, versets 21 et 23.
Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien que le mal est avec moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres.
Chapitre 8, verset 2.
Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Nous parlons également de loi de la nature, de la loi de la pesanteur, etc. Qu'est-ce qui a donc exclu la vanterie? Le simple fait, clairement établi, c'est qu'aucun homme ne peut être justifié par ses œuvres et qu'il ne peut l'être que sur le principe de la foi. On dit, il est vrai souvent, aucune règle sans exception. Ici, nous avons une règle qui n'admet aucune exception. Si nous devons conclure, et il n'y a pas d'autre conclusion possible, que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi, toute gloire en revient donc nécessairement à celui en qui l'on croit. La loi de la foi exclut donc une fois pour toutes la vanterie. Cela est, peut-être, profondément humiliant pour le propre juste, mais pour le pécheur perdu et repentant, c'est extrêmement précieux. Si ce moyen est le seul moyen voulu de Dieu pour la justification, il s'ensuit donc que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, ou qu'il n'est pas plus le Dieu des Juifs que celui des nations. Il est le seul Dieu. Certes, il l'était déjà dans l'Ancien Testament. Toutefois, lorsque tous les peuples de la terre furent tombés dans l'idolâtrie, il se choisit en Abraham et ses descendants un peuple qui devait garder sur la terre la connaissance du seul vrai Dieu. Et maintenant, il est devenu le Dieu de tous les hommes, juifs et gentils, et il justifie un juif circoncis, non pas sur le principe de ses œuvres, sur le terrain de la loi, mais seulement par la foi, c'est-à-dire sur le principe de la foi. Et pareillement, un païen incirconcis, qui ne connaît pas la loi, n'est justifié aussi que par la foi, c'est-à-dire moyennant la foi. il n'y a pas d'autre moyen de justification. Il n'y a donc plus de différence. Tous les hommes sont des pécheurs perdus, sans force, qui ne peuvent être sauvés que par grâce, par la foi en une œuvre qui n'est pas la leur. Dieu, comme l'apôtre l'exprime au chapitre 11, a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Versets 32 et 33. On pourrait alors demander si l'autorité de la loi ne va pas être affaiblie par une telle doctrine, si ces cinq commandements ne vont pas être mis de côté. Qu'ainsi n'advienne, répond l'apôtre. Au lieu d'annuler la loi, nous l'établissons. Verset 31. La loi n'a jamais été mieux affirmée que par la parole de la croix. L'Évangile n'enseigne pas seulement l'état entièrement condamnable de l'homme, mais aussi la nécessité d'une justice valable devant Dieu. Certes, la loi ne donne pas de justice, mais en exige une. La foi reconnaît les deux choses, la corruption complète de l'homme et aussi la nécessité de la justice. Et voici que, au lieu d'une justice humaine que la loi exige, elle reçoit avec reconnaissance la justice que Dieu lui donne gratuitement. En même temps, l'Évangile enseigne que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Le Dieu saint ne pouvait, cela va sans dire, en aucune manière affaiblir le principe de l'obligation vis-à-vis de la loi qu'il avait donnée. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, versets 4 et 5. Nous demandons donc, la loi aurait-elle jamais pu être affirmée plus clairement? Et est-ce que son autorité aurait pu être établie plus parfaitement?